There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La chaîne télé la plus regardée de France, TF1, a peur de perdre sa position de leader. De plus en plus boudée par le jeune public qui préfère les plateformes de streaming, battue régulièrement par les chaînes de France Télévisions à l'heure du prime time, elle a décidé de passer à l'offensive début janvier en programmant de nouveaux épisodes du feuilleton historique de France 3, Plus belle la vie, ainsi qu'une nouvelle émission d'info le matin présentée par le journaliste Bruce Toussaint. Alors comment la Une s'est-elle retrouvée fragilisée ces dernières années? La stratégie du nouveau patron, Rodolphe Belmer, est-elle en train de porter ses fruits? Élément de réponse avec Kevin Boucher et Benoît d'Aragon, journalistes médias au service culture du Parisien. Benoît d'Aragon, le jeudi 4 janvier, vous vous rendez dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine pour assister aux répétitions de la nouvelle matinale de la chaîne animée par Bruce Toussaint et une dizaine de chroniqueurs. Racontez-nous comment ça se passe.
TF1 a installé derrière le plateau du 20h et du 13h, ils ont installé un espèce de loft, ça ressemble à un appartement, il y a une grande vue sur Paris, et surtout j'ai été très frappé parce qu'il y avait une effervescence, beaucoup de gens en régie, et surtout sur le plateau tous les chroniqueurs sont là, ils font beaucoup de blagues, il y a une ambiance colonie de vacances, pré-rentrée scolaire, ça se chambre, il y a une certaine insouciance qui frappe cette équipe. En régie on sent qu'il y a beaucoup plus de tension, il y a tout l'état-major de TF1 et tout le monde est un peu crispé, parce que clairement, côté chefferie, on sait que derrière Bonjour, la nouvelle matinale de TF1, il y a des enjeux industriels. Cette matinale, elle doit marcher, elle est là pour longtemps, pour s'installer et pour compter dans la cour des grands le matin.
Alors on va voir ensemble dans ce podcast pourquoi TF1 a choisi de lancer cette nouvelle émission et plus largement pourquoi elle a peur de perdre sa place de leader dans le PAF. Kevin Boucher, historiquement, la chaîne, privatisée en 1987, a un surnom. On parle de la première chaîne d'Europe. Pourquoi ça ?
On parle de première chaîne d'Europe parce qu'elle est celle qui réalise les plus grosses parts de marché. Plus de 40% de parts de marché dans les années 90, c'est monstrueux. Et c'est une part de marché quand même qui se réduit au fil des années. On est à 30% dans les années 2000. Elle reste première chaîne d'Europe. Attention, aujourd'hui, on ne parle plus de TF1 première chaîne d'Europe, mais de TF1 première chaîne privée d'Europe. Puisque, à la faveur aussi d'une concurrence grandissante, elle est devancée sur le continent par la BBC One, par exemple, en Angleterre, qui est une chaîne publique, elle.
Pourquoi est-ce que c'est important d'être sur la première marche du podium ?
Ce statut de leader, il est hyper favorable économiquement parlant. TF1, c'est une chaîne privée qui dépend de la publicité. Son financement vient de cette publicité. Et forcément, quand on est numéro 1, ça veut dire qu'on a le plus de public possible. Eh ben, les annonceurs, ils voient ça, ils se disent « Notre publicité va parler à davantage de personnes sur TF1 que sur une autre chaîne ». Donc TF1 est en position de demander plus d'argent pour ses pubs.
Benoît d'Aragon, qu'est-ce qui permet à TF1 de rester leader dans les années 2000 puis 2010, malgré l'apparition du câble, de la TNT ou encore de Netflix ?
Parce que en étant première chaîne d'Europe, TF1, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens que France Télévisions ou que M6. Donc du coup, quand un producteur a un bon format, une bonne émission, ou quand un producteur de cinéma a un bon film avec des grands acteurs, il va voir en priorité TF1. Et donc TF1, pendant toute la décennie 2000-2010, elle va signer tous les films de Danny Boone, elle va avoir les meilleures séries américaines, elle va signer un gros contrat avec Endemol qui lui permettra de lancer Star Academy, Secret Story, Koh-Lanta. Voilà, quand il y a un format, une grosse émission, c'est vers elle qu'on se tourne. Et du coup, bah oui, pendant ces deux décennies, elle a les programmes les plus populaires. Elle a aussi le JT le plus regardé d'Europe, parce qu'il y a un réflexe qui est lié au fait que les téléspectateurs apprécient les personnalités de TF1, et elle est capable de faire l'événement. Les téléspectateurs, dès qu'ils entendent parler d'un nouveau programme, ils ont une curiosité de savoir ce que TF1 va leur proposer. Il y a, disons, une relation de confiance entre TF1 et ses téléspectateurs.
En 2016, un nouveau PDG arrive à la tête de la chaîne, Gilles Pélisson, venu du groupe Accor. Qu'est-ce qu'il impulse comme nouveauté ?
Sa première grosse décision, c'est de faire venir Yann Barthès, qui est la star de Canal+, sur TF1, sur TMC plus précisément, qui est la petite chaîne du groupe. Donc voilà, c'est un gros coup. Et il voulait justement rappeler que TF1 fait l'événement et que les plus gros talents de la télévision, ils doivent être sur TF1. Et donc, il va le rappeler avec ce débauchage un peu spectaculaire. Quelques mois plus tard, il va embaucher Camille Combal, qui vient lui aussi de C8 du groupe Canal+. Donc voilà, il veut avoir une dream team, que les meilleurs animateurs de France soient sur ses antennes.
On fait un saut dans le temps. Au mois de mai 2021, les patrons de TF1 et d'M6 annoncent qu'ils travaillent sur un projet de fusion entre les deux groupes. Kevin Boucher, quel est le but de ce mariage ?
Face à une concurrence grandissante, face à l'émergence de nouveaux acteurs, on pense à Netflix, Amazon, Disney, et face aussi à une fuite du public vers ces plateformes, vers YouTube aussi, eh ben ils se disent qu'il faut créer un vrai leader français, qu'il faut pouvoir mutualiser les forces et aussi pouvoir peser en Europe avec un acteur important du secteur et ne plus être d'un côté TF1 qui marche très bien et qui est important et de l'autre côté M6. Ils espèrent en fusionnant pouvoir avoir plus de poids sur les négociations pour les droits sportifs par exemple qui sont de plus en plus chers et pouvoir cette fois-ci apporter des vraies grosses offres sur la table et ne pas laisser ce petit marché partir chez Netflix ou partir chez Apple qui eux ont des budgets colossaux.
L'année suivante, le jeudi 1er septembre 2022, toutes les chaînes et le service de replay du groupe TF1 disparaissent de l'offre réservée aux abonnés de Canal+. Les deux groupes n'ont pas réussi à s'entendre sur des droits de distribution. Ça a quelles conséquences ça pour TF1 ?
Ça a quand même de grosses conséquences à l'époque pour TF1. C'est un conflit qui dure pendant 2 mois et c'est important parce que TF1 reconnaît perdre à ce moment-là 8 à 10% de son audience chaque jour. Parce qu'en fait, Canal+, c'est pas juste un abonné Canal+, c'est aussi TNT Sat, c'est-à-dire ces gens qui reçoivent la TNT par le satellite, et ça concerne plusieurs millions de foyers qui, pendant 2 mois, sont privés de TF1. Et qui dit TF1 perdant 8 à 10% de son audience, dit aussi TF1 voyant des annonceurs dire « Ah ben non, nous on va mettre moins d'argent aussi parce que vous touchez 8 à 10% de personnes en moins que d'habitude. »
Toujours en septembre, le 16 septembre précisément, les groupes TF1 et M6 annoncent que leur projet de fusion tombe à l'eau. Pour quelle raison ?
Ce projet de fusion, il est suspendu en fait à une décision de l'autorité de la concurrence. Un mois avant ce rapport, il y a des signaux qui arrivent et qui sont extrêmement décourageants pour TF1 et M6 parce que l'autorité de la concurrence s'apprête à dire « Vous pouvez fusionner, mais avec d'énormes conditions. » Parce que TF1 et M6, ensemble, auraient un trop grand monopole. Ils auraient un abus de position dominante sur le marché publicitaire. Ils représenteraient à ce moment-là 70% du marché publicitaire. C'est-à-dire qu'ils laisseraient en fait des miettes à leurs concurrents. Et donc forcément, face à ça, ils se disent « C'est impossible. Ces conditions ne permettent pas de fusionner. On abandonne. » Cette envie de créer un gros groupe qui pourrait rivaliser avec Netflix, Disney, Apple en Europe.
Une semaine après ce renoncement, le groupe TF1 annonce que Gilles Pélisson va quitter ses fonctions pour être remplacé par un nouveau PDG. Il s'agit de Rodolphe Belmer. Benoît d'Aragon, c'est un homme qui connaît bien la télévision.
Oui, il connaît très bien la télévision parce que c'est même un des cadors du métier. Il a dirigé Canal+. Ensuite, il a travaillé un peu pour Netflix. Donc, c'est un grand connaisseur qui a bien réfléchi aux usages, aux évolutions, aux changements de comportement des téléspectateurs qui regardent de moins en moins la télévision, on va dire en direct, enfin en tout cas en subissant la programmation des chaînes et de plus en plus en replay. Il a été nommé à ce poste parce qu'à Canal+, il avait fait les grandes heures de Canal+, c'était les années grand journal, c'était les années petit journal avec Yann Barthès, et qu'il avait su créer l'événement sur Canal, en faire une chaîne qu'on regarde, une chaîne qui compte. Et là, il arrive à TF1 et très rapidement, on se rend compte qu'il va réinvestir les programmes et que son idée, c'est qu'il se passe des choses sur l'antenne de TF1, qu'il doit y avoir des événements très souvent. Et donc ça va être sa feuille de route, ré-événementialiser la chaîne TF1.
Ce soir, l'école qui a fait rêver toute une génération rouvre enfin ses portes.
À la même période, le 15 octobre 2022, une émission phare fait son retour sur la Une après 14 ans d'absence. C'est la Star Academy, Kevin Boucher. C'est un pari pour la chaîne ?
C'est un gros pari pour la chaîne parce que c'est un programme phare de son antenne qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros à mettre en place. Et c'est aussi un programme important dans la nouvelle stratégie que veut mettre en place Rodolphe Belmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lui, TF1, c'est pas juste une chaîne de télé, peut-être un replay, c'est aussi une plateforme derrière qui s'appelle à l'époque MyTF1. Et avec la Star Academy, il se dit, on a un truc génial qui permet d'avoir une émission tous les jours à 17h25 avec la quotidienne, des prime time le samedi soir, et aussi une énorme présence sur le digital avec des contenus gratuits et un abonnement payant pour suivre, comme à l'époque, les élèves de la Star Academy au château, ce qui permet de toucher tous les publics via toutes les plateformes et de se dire, en fait, le nouveau TF1, ce sera ça aujourd'hui. Ce sera TF1 partout.
Et est-ce que ce retour de la Star Academy, il plaît au public ?
Il séduit énormément le public, ce retour de la Star Academy. Et pourtant, on parle d'une saison qui est faite à minima. Elle ne dure que 6 semaines parce que derrière, il y a la Coupe du Monde de football qui prend beaucoup, beaucoup d'antennes et qui empêche l'émission d'être là toutes les semaines. À son lancement, il y a déjà plus de 5 millions de personnes qui viennent regarder. Certains partent au fil des semaines, mais il y a un vrai socle de fidèles qui reste là et qui suit aussi bien les prime time que les quotidiennes et le live sur MyTF1 Max.
Benoît d'Aragon, que fait Rodolphe Belmer dans les mois qui suivent ?
Il est très discret, Rodolphe Belmer, dans les premiers mois de son mandat. On le voit pas du tout, il parle pas. Il tente, dans le plus grand secret, de débaucher Faustine Bollaert et Cyril Ferraud de France Télévisions. Et il essaye de shipper le Tour de France aussi, qui est diffusé évidemment sur France 2 tous les étés. Mais dans un premier temps, il se fait très discret. Une de ses premières grosses décisions, c'est de se retirer de Salto. Salto, c'était un Netflix à la française qu'avait lancé conjointement TF1, M6 et France Télévisions. Mais dans un premier temps, les 6 premiers mois après son arrivée sont très calmes.
Pendant le premier trimestre de l'année 2023, TF1 est battu à plusieurs reprises par France 2 dans la case reine du prime time à 21h10. L'écart se resserre aussi entre les JT de la 1 et de la 2. Comment on peut expliquer ça, Kevin Boucher ?
Il y a un vieillissement du public à la télévision. Or, TF1 est une chaîne commerciale qui vit de la publicité, comme on l'a dit, et elle dépend de ce qu'on appelle la femme responsable des achats de moins de 50 ans, la cible préférée des annonceurs, qui a moins de 50 ans. Donc TF1 va faire davantage de programmes pour plaire à cette femme de moins de 50 ans, là où le service public, qui ne dépend pas de la pub, peut parler à des publics plus âgés. Donc par la force des choses, TF1 se prive d'une partie de ce public plus âgé, qui pèse de plus en plus lourd et qui aussi fait pencher la balance en faveur de France 2 petit à petit.
Et le fait que TF1 soit autant battue en prime time dans ce trimestre-là, est-ce que c'est nouveau pour elle ?
Totalement. Il y a 15 ans, TF1, deuxième chaîne de France en prime time, c'était un drame. L'émission devait être arrêtée sur le champ, c'était scandaleux. Là, TF1 accepte d'être deuxième, troisième, parfois même quatrième sur l'ensemble du public. Mais en se disant, on continue à marcher sur notre cible publicitaire, les annonceurs ont continué à être là. Donc, c'est de plus en plus fréquent, mais ils l'assument.
Le mercredi 28 juin 2023, Kevin Boucher, vous vous rendez à la conférence de presse de TF1. Rodolphe Belmer doit annoncer les nouveautés à venir pour la rentrée, mais elles ne sont pas nombreuses.
C'est même un euphémisme, hein. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a une série en préparation avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger. Et à côté de ça, en fait, on savait tout ce qu'il y avait. Parce que, on a une nouvelle saison de la Star Academy qui a marché, c'était déjà annoncé, une nouvelle saison de Koh-Lanta. On le savait, de Danse avec les Stars, on le savait aussi. Et en fiction, c'est la même chose. On nous dit une série avec Julien Doré, ce qui avait déjà été annoncé, une nouvelle saison de HPI, oh, quelle surprise, vu le carton. Donc, tout le monde reste sur sa faim. La communication, la direction de la chaîne nous dit, c'est génial, il y a plein de nouveautés. En réalité, tous les journalistes présents, on se dit, c'est quoi cette conférence de presse où il n'y a rien ? À l'époque, on parle même de l'arrivée de Plus belle la vie qui venait de s'arrêter sur France 3, sur TF1. C'était un secret de polichinelle, hein. Clairement, les comédiens parlaient à tout va en disant que ça se prépare. Pas un mot, rien du tout, on ne commente pas. Un retour de Secret Story attendu par les fans, on ne commente pas non plus. On a eu l'impression, en fait, de perdre notre temps, quoi, cette conférence de presse.
Et que vous disent vos sources en interne à ce moment-là ? Quel est leur ressenti ?
Tout le monde nous dit, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on annonce rien. On va faire une rentrée avec les mêmes programmes. C'est que forcément, derrière, il y a des choses qui doivent arriver. Mais quelles choses ? Ça, c'est toute la question qui se pose à ce moment-là.
Racontez-nous ce qu'il se passe dans les jours qui suivent cette conférence de presse pendant le mois de juillet 2023.
Juillet, c'est un mois assez particulier de base parce que c'est l'été, il y a moins de gens devant la télé. Donc les annonceurs investissent moins. Pour TF1, c'est on fait une grille moins chère que d'habitude avec moins d'événements. Pour France 2, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'événements sportifs, notamment le Tour de France qui peut rassembler plus de 50% du public l'après-midi. Résultat, très vite, en fait, TF1 est battu jour après jour par France 2 et se pose la question, est-ce que pour la première fois depuis 37 ans, France 2 va devenir première chaîne de France au mois de juillet 2023. La question hante tout le paysage de l'audiovisuel français. Et finalement, sur les tout derniers jours du mois de juillet, là où le Tour de France est terminé, TF1 reprend de l'avance et arrive finalement à rester première chaîne de France, mais de justesse.
Cette petite frayeur, elle provoque un sursaut en interne ?
Officiellement, non. Officiellement, on nous dit tout va bien, on savait que le Tour de France serait fort, on savait que nous, on resterait fort aussi. En réalité, il y a eu en effet des vraies sueurs froides en interne parce que tout le monde s'est dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Et jusque très haut, jusqu'à Martin Bouygues, l'actionnaire de la chaîne, pour lui, sa chaîne qui est la première chaîne privée d'Europe ne peut pas devenir la deuxième chaîne de France.
Benoît d'Aragon, le jeudi 5 octobre, TF1 annonce avoir recruté une figure de BFM TV, le journaliste Bruce Toussaint, pour animer une matinale d'infos sur la Une. Ça, c'est une surprise ?
C'est une énorme surprise, parce que c'est rare qu'on débauche un animateur au milieu de la saison. En général, ça se fait au moment du fameux mercato. Bruce Toussaint, c'est quand même un des visages principaux de BFM TV. Et puis la surprise, c'est aussi que TF1 va lancer une matinale. Le matin, c'est France 2, qui est archi-leader, avec Télématin. Et donc, le recrutement de Bruce Toussaint et cette offensive de TF1 le matin, bah oui, on se dit, ah oui, TF1 est vraiment à la manœuvre, ils ont vraiment pas envie de se faire battre par France 2, ils ont vraiment des téléspectateurs à aller grappiller le matin, et on comprend que la nouvelle stratégie, c'est d'aller grappiller des téléspectateurs à toutes les heures de la journée.
Comment réagit France Télévisions à cette annonce ?
Ils sont partagés, hein, parce que, déjà, première chose, ils sont sur leader le matin depuis 40 ans, avec 25% de part de marché pour Télématin, parfois jusqu'à 30%, donc voir arriver un nouveau concurrent sur leur créneau, d'autant plus qu'ils se disent que c'est TF1, donc c'est une machine solide qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication autour de son lancement et que ça peut potentiellement déstabiliser Télématin. Mais en même temps, ils se disent que c'est une machine qui a quasiment 40 ans, Télématin, qui est installée, qui a vu l'émergence des chaînes d'information et des matinales de BFM TV, de CNews, et qui finalement est toujours là, toujours largement leader le matin. Donc ils se disent, attendons de voir, mais pour l'instant, continuons sur notre lancée.
En décembre, Kevin Boucher, vous vous rendez à Marseille sur le plateau de tournage de Plus belle la vie, le feuilleton historique de France 3 qui est relancé par TF1, qui doit être programmé à partir du mois de janvier. Pourquoi relancer un tel programme ?
Dans les couloirs de TF1, dans les réunions avec la direction, en fait, il se dit que, en regardant les audiences de France 3 à l'époque, Plus belle la vie, c'est une série qui marchait de moins en moins, c'est un fait, mais qui continuait à plaire à un public un peu jeune, finalement, un peu similaire à celui de TF1, tout en gardant les proportions de France 3, qui est une chaîne au public beaucoup plus âgé. Donc ils se disent, si on y touche, si on la rajeunit, si on met des nouveaux comédiens, si on fait une nouvelle intrigue, on peut en faire quelque chose de plus TF1 compatible. Investissons plusieurs millions d'euros sur 3 ans pour pouvoir relancer cette série et en faire quelque chose qui correspond davantage à l'ADN de TF1. Et pour occuper là aussi une nouvelle case qui était inexistante, c'est le 13h40, après le journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro. Là, ils se disent, on attaque, et en plus, comme ça, on va pouvoir frapper un petit peu France 2, qui commence à nous menacer avec Faustine Bollard, et ça commence aujourd'hui en face.
Cette année, au tout début du mois de janvier, à quelques jours du lancement de la matinale de TF1 qui s'appelle Bonjour et de Plus belle la vie, Benoît d'Aragon, vous interviewez en exclusivité le patron de la chaîne, Rodolphe Belmer. Quel est son objectif avec ces deux programmes ?
C'est de grappiller un point, deux points de part de marché sur l'ensemble de la journée, ce qui permet d'être sûr de ne pas se faire doubler par France 2. Ça, c'est la hantise numéro un de TF1, c'est de perdre ce statut de leader, et ce serait un symbole énorme dans l'histoire de la télévision française, donc ça, il en est hors de question, et c'est pour ça qu'ils investissent sur les programmes.
En même temps que ces deux nouveautés, TF1 lance une nouvelle plateforme gratuite, TF1+, qui remplace le service de replay existant, MyTF1. Sur cette plateforme qui se veut comme une sorte de Netflix à la TF1, on peut toujours revoir évidemment les programmes diffusés récemment sur la chaîne, mais aussi, et là c'est nouveau, retrouver des séries en intégralité ou des vieilles saisons de Koh-Lanta par exemple. Là encore, Benoît d'Aragon, c'est pour attirer les jeunes vers TF1 ?
les jeunes aujourd'hui regardent jamais la télévision en direct. Ça veut dire qu'ils veulent choisir quand ils regardent les choses. TF1+, ça y participe, c'est-à-dire permettre aux jeunes téléspectateurs de pouvoir regarder une série comme HPI, qui est très populaire. HPI, c'est une série policière avec Audrey Fleurot. Et ils vont aussi lancer des programmes spécifiquement pour les jeunes. Évidemment, la Star Academy, c'est un programme qui marche très fort sur les 15-24, 15-34 ans. Donc, ils lancent des programmes spécifiquement pour eux. Et Secret Story, qui va revenir au mois d'avril sur TF1, participe également à cette stratégie.
Bonjour à tous, un nouveau jour se lève et ça y est, nous y sommes. C'est la première de Bonjour la matinale TF1, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30.
La première de la matinale animée par Bruce Toussaint, Bonjour, est diffusée le lundi 8 janvier à partir de 7h. Benoît d'Aragon, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça ressemble pas vraiment à une matinale d'info. Ça ressemble plus à une émission, ce qu'on appelle une émission d'accueil. Il y a beaucoup de chroniqueurs autour de la table. Il y a plus de bonne humeur que d'information. Le ton est sympathique. L'ambiance est chaleureuse. Après, pour être honnête, on n'apprend pas grand-chose. Ce qui d'ailleurs va être rectifié au fur et à mesure des semaines.
Kevin Boucher, si on dresse un premier bilan, 2 mois après sa première diffusion, Plus belle la vie a vraiment trouvé son public, 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne, un excellent score pour cette case horaire après le JT de 13h. Comment se porte de son côté la matinale de Bruce Toussaint ?
Mal. Il n'y a pas d'autre mot en fait, elle se porte mal, elle a démarré devant plus de 500 000 téléspectateurs, elle en a perdu la moitié dès le lendemain. Et depuis, elle stagne autour de 250-260 000 téléspectateurs. Et pourtant, quand on a fait le bilan du premier mois, Thierry Tuilier, directeur de l'information de TF1, qui gère Bonjour, nous a dit « on est dans ce qu'on attendait ». Pour lui, c'était une première semaine qui allait marcher plutôt bien. 2-3 semaines ensuite, de zones de turbulence où les audiences allaient forcément chuter, où l'émission allait devoir se trouver. Puis une stabilisation des audiences. Désormais, la stabilisation doit tendre vers une augmentation. Mais verra-t-elle le jour ? Ça, le temps le dira.
Benoît d'Aragon.
TF1 avait prévenu, cette émission, elle n'est pas rentable. Elle ne peut pas être rentable à 7 heures de la journée avec 250 000 téléspectateurs. Ça ne permet pas d'amortir les coûts. Donc, ils avaient annoncé que cette émission se coûterait de l'argent à TF1. Après, la question, c'est de savoir pendant combien de temps ils vont pouvoir se permettre de perdre de l'argent le matin.
Benoît d'Aragon, est-ce que TF1 pourrait, sur le long terme, perdre son leadership ?
Effectivement, quand on regarde les évolutions de la télévision, plus TF1 va se concentrer sur les moins de 50 ans à qui on vend de la publicité, plus ils vont perdre le grand public. Et donc la question, c'est quand ça va arriver ? TF1 va essayer de reculer le plus possible le moment où France Télévisions va lui passer devant. Et en vérité, c'est quand même le leader qui dicte ses règles dans le petit monde de la télévision. Et donc quand cette bascule va arriver, ça aura un impact très fort.
Benoît d'Aragon, cet été, en raison des Jeux Olympiques de Paris, TF1 pourrait perdre pour la première fois son statut de première chaîne de France.
Là, ce sera impossible de faire autrement. France Télévisions va diffuser les JO presque 24 heures sur 24 pendant 15 jours. TF1, au même moment, va diffuser des rediffusions pour aller essayer de chercher les téléspectateurs qui n'aiment pas le sport et qui ont envie de regarder autre chose. Mais honnêtement, ils seront pas très nombreux. On sera en plein été. Les gens qui n'aiment pas le sport, ils seront à la plage ou en train de faire des barbecues. Donc ça va être très difficile. Mais ça ne dure que 2 semaines. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir comment TF1 va gérer la fin du mois d'août 2024. À TF1, on relativise en disant que si on se fait battre une fois tous les 100 ans, c'est pas très grave. En vrai, ils vont mettre le paquet sur la rentrée de septembre 2024 pour reprendre très vite leur place de numéro 1.
Merci à Kevin Boucher et Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée, laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire. Allez découvrir également les 2 podcasts hebdomadaires du Parisien, Crime Story et Le Sacre. Crime Story, c'est une affaire criminelle racontée chaque samedi. Et dans Le Sacre, retrouvez l'interview d'un ou une médaillée d'or olympique en ligne le mercredi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.